We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the Bonjour et bienvenue pour un livre, un film. Un livre, un film, eh bien, cette fois-ci, ce sera Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas et son énième adaptation au cinéma par Monsieur Bourboulon. Eh bien, cette année, pas plus tard qu'il y a quelques mois, Martin Bourboulon portait à l'écran Les Trois Mousquetaires sous le titre Les Trois Mousquetaires avec une suite normalement l'année prochaine. C'est la transformation en film d'un roman extrêmement célèbre, publié d'abord en feuilleton quotidien par Dumas et puis édité dans la foulée immédiatement en 1844. Ça fait donc un bail tout de même. Le film, c'est un scénario d'un autre Alexandre, Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte. Ils se sont mis à deux pour massacrer le texte de Alexandre Dumas. Il fallait au moins ça. Plus le casting tout de même royal avec Louis Garrel, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille. Et aussi beaucoup Éric Ruff de la Comédie Française, cela pour l'équipe masculine. Et puis donc Eva Green, Vicky Krieps et Lina Koudry, principalement dans l'équipe féminine. Il ne faudrait pas oublier, ce serait injuste, Stéphane Théasson, chef décorateur, qui avait déjà fait les décors de Eiffel, du même Martin Bourboulon, avec le même Romain Duris en 2021. Cette fois, c'est la vie de Gustave Eiffel qui avait été littéralement transformé en puzzle. Et il ne faut pas oublier encore Thierry Delettre, qui chef costumier, qui avait déjà travaillé sur Eiffel avec Martin Bourboulon. Voilà, du beau monde, c'est vrai qu'il était important, on verra par la suite, de parler des décors et des costumes de ce film, évidemment, historique. Un livre, un film, on devrait peut-être dire plutôt trois livres, un film. Le premier film serait le film un petit... Le premier... Trois livres, un film, je recommence. Donc, le premier livre serait un livre un petit peu idéal, un livre d'histoire qui nous raconterait l'histoire de France depuis le règne du bon roi Henri IV jusqu'à la fin du moins bon roi Louis XIV, si l'on en croit les racontars. Henri IV donc a régné en France jusqu'à ce que Ravaillac, un illuminé catholique, l'assassine dans son carrosse en 1610. Henri IV s'est faufilé dans les guerres de religion pour gagner Paris et la monarchie, ceci valant bien une messe, paraît-il. Une fois en place, eh bien, il a épousé Catherine de Médicis et a eu le petit Louis XIII. Une fois mort, c'est bien entendu Catherine de Médicis qui a pris le pouvoir, la régence, car Louis XIII était trop petit. Et puis ce pouvoir, elle n'était pas pressée de le céder, malgré la présence du cardinal de Richelieu, un homme d'État comme on n'en fait plus. Ça, c'est vrai que si on compare Richelieu aux hommes d'État qui sont plus des gouvernés que des gouvernants aujourd'hui, on prend un tout petit peu peur. Eh bien, donc, cette histoire se poursuit avec donc Louis XIII, puis Louis XIV. Louis XIII, en fait, va consolider la monarchie française. Il ne va pas être du tout le roi falot et léger et craintif qu'on dépeint trop souvent. Plus ou moins d'accord avec Richelieu, il va affermir la monarchie française en terminant les guerres de religion, pas toujours bien proprement, nous sommes bien d'accord, et en boutant définitivement l'anglais hors de France à la suite du siège de La Rochelle en 1627-1628. Par la suite, Louis XIII mourant, c'est Louis XIV qui prendra le pouvoir, mais comme il est trop jeune, en attendant, c'est Anne d'Autriche, la femme de Louis XIII, qui assurera les affaires, en attendant donc Louis XIV. Donc Anne d'Autriche avec Richelieu qui sera remplacé par Mazarin, et c'est Mazarin et Louis XIV qui instaureront donc cette monarchie absolue de droit divin. Au bon roi Henri IV aura succédé Louis XIII dit le Juste et Louis XIV dit le Grand, ou encore le Roi Soleil qui s'est levé en 1643. Voilà, premier livre. Rapidement, le deuxième livre, eh bien, serait Les Mémoires de Gatien Courtil de Sandras. Cet homme est un écrivain qui peut spécialiser dans les mémoires, dans les romans historiques, dans les pamphlets également. C'est lui qui donc écrira l'histoire de D'Artagnan et des mousquetaires. D'Artagnan et les mousquetaires. Alors comment ça s'est passé? Ben, assez simplement, ce sieur Courtil, je ne retrouve plus son nom de ce sieur Courtil de Sandras. Voilà, il était de Sandras, Courtil de Sandras. À force de prendre toutes les libertés dans ses pamphlets, s'est retrouvé enfermé à la Bastille. Ça rigolait moyen à l'époque. Et le patron de la Bastille avait connu D'Artagnan et il a raconté l'histoire de D'Artagnan à ce monsieur Courtil de Sandras, qui en a sorti donc des mémoires en 1700, soit 27 ans après la mort de D'Artagnan. Car en effet, D'Artagnan, contrairement à ce que nous raconte Alexandre Dumas, n'a pas été le mousquetaire de Louis XIII, mais le mousquetaire de Louis XIV. Alexandre Dumas s'est permis, en quelque sorte, de déplacer l'histoire de Louis XIV à Louis XIII pour des raisons qu'on pourrait s'expliquer assez rapidement. En effet, si le règne d'Henri IV est assez clair à comprendre et celui de Louis XIV encore plus clair, celui de Louis XIII est un règne de transition extrêmement complexe et du coup beaucoup plus intéressant d'une certaine manière pour y placer une aventure mouvementée faite de personnages hauts en couleur avec de nombreuses actions. Donc on fait de D'Artagnan le fidèle serviteur, le mousquetaire du roi Louis XIII. Il était le fidèle serviteur en fait du roi Louis XIV, qu'il a protégé dès la petite enfance du roi. Il était très 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 proche de ce roi. Il a beaucoup rendu service également à Richelieu. Richelieu lui en a été reconnaissant. Il a eu très vite beaucoup d'avancement. Et puis Louis XIV s'en est souvenu également, qu'il lui a confié la mission, peut-être une des missions les plus chaudes de son règne, l'arrestation de Fouquet. Fouquet était son ministre des Finances qui a eu l'outrecuidance de s'enrichir plus que Louis XIV. Ça a déplu à Louis XIV, qu'il a donc fait arrêter, c'est logique. Et c'est D'Artagnan qui s'est lui-même déplacé pour aller arrêter le monsieur et l'enfermer. Mission qu'il a accomplie, semble-t-il, avec tout ce qu'il fallait de délicatesse, au point de, paraît-il, entretenir des rapports plutôt sympathiques avec Fouquet, complètement déchu. Dumas donc se saisit de l'histoire de D'Artagnan, lui donne ses compagnons qui ont eux aussi existé. Alors, les historiens s'en sont occupés après avoir donc trouvé Charles de Batz de Castelmore, plus connu donc sous le nom de D'Artagnan, né entre 1611 et 1615. Il avait donc en vrai 10 ans quand l'histoire de Dumas commence. Ce D'Artagnan a été accompagné de Armand de Silègue d'Athos d'Hauteville, 1615-1645, Armand de Silègue d'Athos, qui donnera donc Athos. Mais alors que dans Les Trois Mousquetaires, Athos est le personnage l'aîné largement, il a 10 ans de plus qu'Aramis et Porthos, et il est aussi le plus sage. Il a vécu une passion dont je ne dévoilerai rien parce qu'elle est un des nœuds principaux de l'histoire. Athos, donc, le vrai n'a pas du tout eu cette vie-là, car il ne devait pas avoir 30 ans quand il est mort dans un duel auprès au clair. Porthos, c'est en fait Isaac de Porto, issu d'une famille protestante. Un paradoxe quand on sait qu'évidemment le roi était ô combien catholique comme la reine et les mousquetaires normalement aussi, mais non, Isaac de Porto, protestant, est devenu lui aussi mousquetaire, mais pas du tout à Paris et au Louvre comme dans Dumas, mais à Perpignan, à Lyon et enfin à Navarinx où il était gardien des munitions et il a fini peinardement sa vie chez son neveu dans les Pyrénées-Atlantiques. Enfin Aramis, eh bien c'est Henri d'Aramitz, né vers 1620, il avait donc 5 ans au moment où l'histoire de Dumas commence. Lui aussi, en effet, mousquetaire, car le cousin de Monsieur de Tréville, le patron des mousquetaires. Et lui, eh bien, ne s'est pas livré à toutes les aventures que lui prête Dumas, car en 1648 déjà, c'est-à-dire 5 ans après le début du règne de Louis XIV, au décès de son père, il prend la fonction d'abbé laïque d'Aramitz. Voilà pourquoi il s'appelle Henri d'Aramitz et a donné Aramis. Nous voilà donc pourvus de D'Artagnan, d'Athos, de Porthos et d'Aramis, considérablement transformés par Alexandre Dumas. Tout ça donne une aventure apparemment pleine de puissance, prête à accoucher de toutes les tragédies possibles. Quand on regarde un peu plus près le livre d'Alexandre Dumas, qui compte quand même un millier de pages, on s'aperçoit que la misère humaine, les faiblesses des hommes y sont également convenablement dépeints, ce qui me fait dire que tout ça est aussi un petit peu fragile.
Tears from a star, like tears from a star.
Fragile, fragile comme Athos qui a eu une vie compliquée et ça part pas pour se simplifier. Il ne faudrait pas oublier au passage les laquais de nos mousquetaires. Ainsi, au chapitre 64, nous pouvons lire « Planchet, Grimaud, Mousqueton et Bazin se présentèrent et reçurent les ordres clairs, ponctuels et graves d'Athos. Ils devaient partir au point du jour le lendemain et se rendre à Armentières, chacun par une route différente. Planchet, le plus intelligent des quatre, évidemment, c'est le plus intelligent des quatre puisque c'est le laquais de D'Artagnan. Alors D'Artagnan, écoutez, on va pas trop s'attarder, il a toutes les qualités, il est assez facilement définissable de cette manière. Athos, je voulais expliquer, est le plus noble des quatre, il devient chez Dumas le comte Olivier de la Fère. Il est le doyen donc des autres, l'homme d'une ancienne passion, et comme le dit Alexandre Dumas, page 606 de l'édition Folio, d'ailleurs Athos était de bonne composition et grand seigneur jusqu'au bout des ongles. C'est aussi celui, Athos, qui a le plus de mal à garder son argent, d'autant que torturé, il est à la fois grand buveur et grand joueur. Voilà, cet Athos était cependant très fort à tous les exercices du corps, est-il écrit page 109 des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Il faut bien être très fort à tous les exercices du corps quand on est le compagnon, évidemment, de D'Artagnan. Dans l'histoire du cinéma, Athos a été joué par Georges Descrières dans Les Trois Mousquetaires de 1961. Il a été joué par Jean-Luc Bidault dans La fille de D'Artagnan de Tavernier. Athos a été également joué, me croirez-vous, par John Malkovich dans L'homme au masque de fer en 1998 et par Guillaume Depardieu dans Milady de José Dayan en 2004. Porthos, lui, est d'une force exceptionnelle et c'est à peu près tout ce qu'il a d'exceptionnel, ce qui en fait quelqu'un d'exceptionnel parmi la bande des exceptionnels, si vous voulez. Porthos, page 109 toujours, est décrit comme ayant un poignet herculéen. Il est évidemment, il est donc d'une force effectivement hors du commun, et va devenir Monsieur Bracieux et de Pierrefonds en se mariant fort opportunément avec une femme riche qui venait malheureusement de perdre son mari. En plus d'être Porthos est fort malin. Fort malin, ce Porthos. Il a été joué, je ne sais plus exactement par qui, mais je vais vous retrouver ça. Oui, par Gino Cervi dans Les Trois Mousquetaires en 1953 et par Gérard Depardieu dans L'Homme au masque de fer en 1998. Aramis, lui, dans le film de Bourboulon, bien entendu, Porthos, c'est Pio Marmaille, qui en fait un petit peu trop dans le non-exceptionnel, si vous voulez, dans la mesure où il n'a pas, semble-t-il, ce petit grain de malignité. Il a surtout donc une force physique qu'il emploie avec une très grande générosité. Aramis, lui, sa particularité, c'est d'être amoureux d'une femme, amour partagé, d'une femme très très haut placée qui va bien servir l'équipe dans leurs petites aventures. Et sa particularité, c'est qu'il est sans cesse tenté par la vocation religieuse qu'il a tendance à oublier aussi rapidement qu'elle lui vient, à cause de deux choses principalement. Il adore se battre à l'épée et il adore les personnes du sexe faible qu'il défend donc avec son épée. On avait vu que le personnage historique avait fini abbé en 1648, donc on a conservé cette dimension religieuse. Il sera joué par Richard Chamberlain, Aramis, dans trois films. Il sera également joué par Sami Frey dans La fille de D'Artagnan et par Jeremy Irons dans L'homme au masque de fer, encore et toujours en 98. J'allais oublier que dans L'homme au masque de fer, Leonardo DiCaprio jouait Louis XIV. Dans le film de Bourboulon, c'est Romain Duris qui s'est collé au personnage d'Aramis, et Bourboulon en a fait une espèce de pervers sexuel gothique qui correspond assez peu au personnage d'Alexandre Dumas, et on ne voit pas très bien ce qu'il vient faire dans cette histoire. La 37e fois que Les Trois Mousquetaires étaient portés à l'écran, D'Artagnan ayant été joué par Georges Marchal, par Jean Marais, par Jean-Paul Belmondo, par Michael York, par Chris O'Donnell, par Justine Chambers et par François Civil. François Civil, donc, dans ce dernier opus, où il joue un D'Artagnan, et bien écoutez, un D'Artagnan normal, on va dire, voilà. Je dirais, pour finir, quant à ce casting, qu'il a été, à mon sens, un petit peu sous-employé. Il me semble que de Vincent Cassel, qui a joué dans La Haine, me semble-t-il, qui a joué également dans un des films de Océane, on pouvait tirer de Vincent Cassel plus que ça pour le personnage d'Athos, plus que ça pour le personnage de Porthos de Pio Marmaille, beaucoup plus de Romain Duris dans le personnage d'Aramis, de même qu'on aurait pu composer des personnages un peu plus fouillés pour Madame de Bonacieux, pour Anne d'Autriche, jouée par Vicky Krieps, et pour Milady, jouée par Eva Green, de manière un petit peu caricaturale. Celui qui s'en sort un petit peu, à mon avis, c'est Éric Ruff de la Comédie Française, qui joue un Richelieu absolument parfait. Les costumes étaient eux aussi extrêmement bien faits, quoique anachroniques, au dire de Julien Malagaèche, qui a écrit un livre, Erratum, pour en découdre avec les anachronismes du cinéma, et qui donc reproche à Bourboulon d'avoir habillé ses mousquetaires comme des cow-boys au lieu de les avoir habillés comme des gentilshommes qu'ils sont. Les décors, eux, évidemment, sont irréprochable, presque parfait, ce qui a permis à notre réalisateur d'y aller d'une surenchère perpétuelle. Autant on est embarqué par le roman d'Alexandre Dumas d'aventure en aventure, autant dans le film de Martin Bourboulon, on est chargé et surchargé d'aventures dont on ne voit pas bien ce qui les relie les unes aux autres. Voilà donc pour un livre, un film. À la prochaine. We get it almost every night.